Professeur Abdoulaye Sepou, bonjour.
Bonjour Eda.
Vous venez de boucler le 4e congrès de la Société Centrafricaine de Gynécologie et d'Obstétrique SOCAGO. Qu'est-ce qui a donc marqué ce moment d'échange?
Le 4e congrès de la Société Centrafricaine de Gynécologie et d'Obstétrique a eu la particularité d'enregistrer la participation effective de 13 experts venus des pays d'Afrique francophone d'une part. D'autre part, la participation des prestataires venus de l'intérieur du pays et des prestataires venus de Bangui. Mais le point culminant, c'est la participation effective du président de la République, chef de l'État, et de la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé.
Donc c'est la première fois qu'un haut responsable de l'OMS participe à une telle rencontre en République centrafricaine.
En 30 ans de congrès organisé par la Société africaine de gynécologie obstétrique, c'est la première fois qu'un directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé puisse participer à un congrès. Ça veut dire que nous avons vraiment réussi ce que même la Société africaine de gynécologie obstétrique n'a pas pu.
Alors, quelles sont les recommandations issues de ces 3 jours d'échange?
L'équipe de rédaction des recommandations est à pied d'œuvre et va terminer les recommandations d'ici peu. Mais la primeur de ces recommandations est réservée au ministre de la Santé qui va les soumettre au chef de l'État. C'est après que la presse pourra être informé.
Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé parlent de suivi de grossesse et pathologies pendant la grossesse. Quels sont les points clés de ce document?
Les points clés de ce document, c'est l'amélioration des pratiques par rapport à la femme qui accouche. Il y a un exemple que je peux donner, celui d'autoriser qu'un parent puisse être à côté de la femme qui est en train d'accoucher. C'est vrai que nos structures ne sont pas adaptées à ce genre de choses parce que nous avons des salles qui ne sont pas cloisonnées. Pour y arriver, il faudrait que la salle d'accouchement puisse être organisée comme un box. C'est-à-dire, la personne qui veut accoucher rentre dans ce box et peut avoir à côté d'elle son mari pour l'accompagner. Ça, c'est un élément clé. Plusieurs autres choses que je ne pourrais pas développer ici, mais qui sont disséminées auprès des prestataires, lesquels prestataires devront mettre ça en application.
En dehors du principal thème qui traite des cancers gynécologiques et mammaires, vous avez abordé aussi les hémorragies génitales, la planification familiale, la prise en charge du nouveau-né. En quoi ces sous-thèmes sont-ils importants?
Pour chaque sous-thème, il faut dire par exemple que les hémorragies sont des situations qui arrivent après un accouchement. C'est imprévisible. Mais quand ça arrive, il faudrait que la personne qui a accouché soit dans un milieu hospitalier. Mais si l'accouchement a lieu à domicile et que le saignement s'est déclenché, le temps de chercher à trouver un moyen de transport pour l'amener à l'hôpital, elle arrive souvent à une période où on ne peut pas faire grand-chose. La planification familiale, c'est une méthode de vie en réalité. Une jeune fille a le désir de son corps, mais si elle ne veut pas concevoir, elle a la possibilité d'utiliser les méthodes de contraception. Malheureusement, la plupart de nos jeunes filles n'utilisent pas les méthodes de contraception, prennent les grossesses et vont dans des endroits non indiqués pour vouloir interrompre la grossesse, ce qui cause beaucoup d'accidents. C'est des situations qu'on pouvait éviter en utilisant les méthodes contraceptives. Et il fallait insister là-dessus pour que nous puissions passer le message à la population. Et la prise en charge du nouveau-né, il faudrait que le nouveau-né soit accueilli dans un milieu hospitalier. Quand vous accouchez à domicile et que les gens ne sont pas capables de pouvoir permettre à l'enfant de s'adapter à la vie extérieure, cet enfant risque de succomber inutilement alors que les formations sanitaires sont disponibles. En plus du cancer mammaire qui peut être diagnostiqué très tôt et être traité et permettre à la femme de survivre, et les autres cancers gynécologiques, notamment le cancer du col qui aujourd'hui peut être prévenu déjà même quand la fille à l'adolescence a eu le vaccin, c'est des thèmes qui sont importants pour la santé de la femme.
Existe-t-il déjà un vaccin contre les cancers de col de l'utérus?
Oui, le vaccin existe. Des travaux de recherche ont montré qu'il y a une infection avec un virus qu'on appelle le papillomavirus. Quand une femme a contracté le papillomavirus, elle présente des risques énormes de développer le cancer du col. Là, ça c'est au cours du rapport sexuel. Pour éviter que le papillomavirus un virus puisse contaminer une femme, ben, il faut la vacciner quand elle est encore adolescente. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore commencé les rapports sexuels. Si elle est vaccinée, elle a moins de risque d'être contaminée par le papillomavirus et elle a moins de risque de développer le cancer du col.
Mais comment se manifeste le papillomavirus?
C'est un virus, quand la personne est contaminée au cours du rapport sexuel, ben, la personne ne se rend même pas compte, hein, ça passe inaperçu. C'est la surveillance, les prélèvements au niveau du col qui disent que, attention, le papillomavirus est passé par là, il faudra prendre des dispositions. Voilà.
Disposez-vous des statistiques des femmes qui souffrent du cancer du col de l'utérus et mammaire à Bangui en République centrafricaine?
Jusque-là, nous n'avons pas encore ce qu'on appelle le registre des cancers. C'est à travers le registre des cancers qu'on peut avoir la centralisation de toutes les données. Les données fractionnées au niveau de communautaire, de l'amitié ou de maman domicile ou dans les régions ne nous permettent pas d'établir des statistiques qui sont fiables. Nous sommes en train de mettre en place le registre des cancers. Dès que ce registre sera mis en place, je pense que nous pourrons avoir des statistiques qui sont fiables et qui permettent de prendre des dispositions pour mener à bien la lutte contre les cancers mammaires et gynécologiques.
Quelles sont les stratégies, professeur, que vous comptez mettre en place pour réduire la mortalité des femmes qui accouchent et leurs enfants?
La stratégie, ça concerne trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau familial. Le niveau familial veut dire qu'une femme qui est arrivée à l'adolescence, qui peut être capable d'être enceinte, décide de se dire, je veux prendre une grossesse. Mais quand on a la grossesse, il faudra se faire suivre parce qu'une pathologie se développant chez une femme enceinte est souvent grave. Et quand une pathologie se développe, il faudrait que la prise en charge soit assurée, mais ça demande des ressources financières, j'entends. Si la famille n'est pas préparée, ça pose des problèmes. L'autre aspect, quand la femme est enceinte, même si vous êtes bien préparé, mais il faudrait que la grossesse soit suivie pour qu'on identifie les problèmes qui peuvent se créer et éviter que ça ne s'aggrave. Le deuxième niveau, c'est au niveau des prestataires. Nous devons faire le travail correctement selon les compétences qui nous ont été inculquées à l'université et pendant nos stages pratiques. Si nous le faisons correctement, il y a beaucoup de chances que nous puissions arriver à réduire la mortalité maternelle. Malheureusement, le pays n'est pas couvert en personnel qualifié. Nous sommes en train de réfléchir, ça a déjà été l'objet de petites discussions, mais c'est une discussion qui doit être apportée à un niveau élevé pour que nous fassions le choix de former beaucoup de cadres dans le domaine de la santé, lesquels cadres devront couvrir le territoire national pour que chaque femme puisse accoucher devant un personnel qualifié. Le troisième niveau, ce sont nos décideurs. Donc, il nous appartient de leur expliquer les éléments importants qui permettent de mener la lutte contre la mortalité maternelle.
Et vos attentes après ce 4e congrès?
Les attentes, c'est qu'il faudrait que chaque prestataire puisse appliquer les recommandations de l'OMS. Il n'y a pas de négociation pour ça. C'est une obligation. Tout le monde devra appliquer ces recommandations. Ça, c'est un élément clé.
À quand le prochain congrès?
Nous avons fait notre premier congrès en 1999. Il nous a fallu attendre 20 ans pour organiser le deuxième congrès. Le troisième congrès était organisé en 2020. Là, nous sommes au quatrième. Nous atteignons quand même la maturité. Ce que nous visons actuellement, c'est le congrès de la Société africaine de gynécologie obstétrique, congrès de la SAGO, pour lequel notre pays a déjà été désigné, mais nous sommes en train de négocier pour prendre ce congrès-là et l'organiser chez nous en 2025.
Professeur Abdoulaye Sepou, merci.
C'est moi qui vous remercie, Eda.